C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
On ne pouvait pas terminer la saison sans parler de Fierté Montréal qui s'apprête à célébrer sa 20e édition en août. Fierté Montréal, dont les dernières années, on peut le dire, ont été difficiles et plein de défis cette année. Et pour discuter de tout ça, on reçoit le directeur général, on dit par intérim ou intérimaire, Higino Montero. D'abord, bien, merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue.
Bien, merci à toi, Denis Martin. Ça me fait plaisir d'être ici.
Bien, je commence avec une question qui est toute simple, mais je trouve qu'elle est appropriée dans les circonstances. Comment ça va? Comment vont les gens à Fierté Montréal?
Mais les gens font très bien. Je te dirais que l'équipe a quand même pas mal changé. Équipe, conseil d'administration, pas mal changé. Une organisation qui a été reformée un peu. Mm-hmm. C'est sûr qu'à la suite, bon, on en parlera certainement, à la suite de plusieurs crises quand même, il y a eu des changements, mais l'équipe va bien. Aujourd'hui, je te dirais qu'on est une belle équipe avec des cœurs à la bonne place. Puis on a bien hâte à cette année.
Et toi, personnellement?
Ben, moi, ça va. J'ai découvert les journées de 25 heures, les journées à rallonge qui sont plus longues que mes habitudes, mais j'aime ça.
Et puis, t'es encore tout jeune, tu vas passer au travers.
Ben, exact, j'espère.
Alors, si j'ai posé cette question-là, c'est important parce qu'il y a eu une crise, on peut le dire, l'an dernier, notamment avec le départ d'une dizaine d'organismes dénonçant des pratiques discriminatoires. Ça a été difficile. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ces événements-là?
Mais c'est sûr que... Moi, le regard que j'ai, c'est que ça a été quand même un moment qui a été difficile pour beaucoup de personnes. Nous, en tant que Fierté, on porte quand même un nom qui est plein de responsabilités. On a la responsabilité quand même d'honorer un mouvement qui s'inscrit dans une longue histoire. Et avec cette responsabilité vient aussi beaucoup de mouvements. Tu sais, quand on parle de diversité, on parle aussi de diversité d'opinions. On parle de beaucoup de choses différentes. Puis ces opinions se sont exprimées. Puis moi, je pense qu'en tant qu'organisation, on a la responsabilité d'écouter. D'écouter, puis de se réfléchir, puis de réfléchir sur notre rôle, sur comment justement on est dans un processus en mouvement. On parle de mouvement, mais un mouvement, ça bouge. Comment on réfléchit sur nous-mêmes, comment on est dans un processus d'amélioration. Puis parfois, ça passe par une des crises. Moi, je te dirais qu'il y a eu des crises avec plusieurs S.
Ouais.
Puis ça prend ça aussi, à un moment donné, dans une démarche humble et modeste, on a l'obligation d'écouter. On a l'obligation d'écouter. Nous, on est quand même des communautés queer qui s'inscrivent quand même dans des mouvements de résistance, des mouvements très vocaux aussi. Puis c'est important. Quand les communautés s'expriment, on peut le prendre, soit on le prend comme un affront, soit on le prend justement de manière modeste comme une alerte qui est tirée sur une perspective d'amélioration. Puis moi, je le vis comme ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il y a des vraies blessures derrière tout le côté brassage médiatique, etc. Quand des vraies blessures qui ont été exprimées, des blessures qui ont besoin d'être reconnues, puis je les reconnais. Puis on s'excuse aussi en tant qu'organisation pour des blessures qui ont pu être ressenties par beaucoup de membres de nos communautés. Puis nous, en tant qu'organisation, on a la responsabilité de s'améliorer, d'écouter, puis de travailler avec les personnes dans ce sens.
Un des points, c'était, je dois le nommer, un des points qui a été souligné, hein, c'est la crise à Gaza, c'est le génocide à Gaza. Et ça a été compliqué comme situation. Bon, maintenant qu'il semble y avoir une certaine paix, les choses semblent est-ce que ça améliore la situation pour vous autres?
Mais je te dirais que, par exemple, par rapport au génocide à Gaza, l'organisation telle qu'elle est formée aussi aujourd'hui, puis on a reconnu le génocide à Gaza l'an passé, on l'a réaffirmé cette année. C'était important parce que nos communautés en ont beaucoup parlé. Pourquoi ? Quand je te parlais de responsabilité qu'on a en tant que Fierté, on a une responsabilité qui s'inscrit dans un mouvement de lutte contre les oppressions. Puis nous, on pense quand même que s'il y a de l'oppression, personne n'est totalement libre. Et c'est aussi notre responsabilité en tant que mouvement de nommer, de reconnaître les réalités, les oppressions qui se passent ici ou ailleurs. Puis là, je le réaffirme, c'est important pour nous de reconnaître le génocide à Gaza aujourd'hui. Puis oui, c'est sûr que ça aide dans l'échange. Parce qu'à un moment donné, on sent quand même dans nos communautés qu'on est un peu plus alignés sur l'importance justement de reconnaître les oppressions.
Alors, comment réparer? Parce que, bon, il n'y avait pas seulement que la situation à Gaza, il y avait aussi des critiques sur des politiques qu'on a jugées discriminatoires, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment on répare ça? Est-ce que ça se répare?
Mais je pense que oui. La première chose, c'est l'écoute. Je pense que, tu sais, quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est l'importance de l'écoute et du dialogue. Et je pense que la première étape, c'est vraiment l'écoute. Puis après, je te dirais très rapidement la reconnaissance des expériences. On ne veut pas forcément, tu sais, je te dis, on est une équipe reformée, on n'est pas forcément dans l'analyse des faits. On les a vus, on les reconnaît, mais c'est important de reconnaître les expériences. Il y a des personnes qui ont eu des expériences douloureuses. Puis nous, en tant qu'organisation, on reconnaît ces expériences, puis on tend la main. Donc, au-delà de l'écoute, de la reconnaissance, il y a aussi un besoin d'action concrète. Ça ne peut pas être juste symbolique, puis ça ne peut pas être juste des mots. Il y a aussi besoin d'action concrète. Bah, tu vois, typiquement, c'est de remettre le communautaire, les artistes, etc., les gens avec qui on travaille au centre de la prise de décision. Pour nous, par exemple, c'est passer par la mise en place de comités aviseurs. On a un comité aviseur communautaire, un comité aviseur programmation, et qui sont composés justement de représentants, représentantes d'organismes qui ont justement la possibilité de s'exprimer sur des éléments centraux comme la programmation ou l'appel à projet communautaire, les placements dans le défilé, les placements en journée communautaire. Donc on est vraiment dans une logique par et pour. On a aussi des formations gratuites qu'on a offertes par exemple aux artistes, aux collectifs artistiques, mais également aux membres des organismes communautaires. On sait que c'est tout le monde en ce moment vit une situation financière compliquée. C'est important pour nous en tant que plateforme de proposer des solutions aussi. Et autre action, par exemple, j'adore cette action, c'est l'appel à projets artistiques. C'était comment on ouvre justement notre programmation à des nouveaux talents. Puis on a fait un appel à projets artistiques qui était ouvert à tous. Par exemple, ça peut paraître des petites actions, mais c'est des actions qui sont quand même très ouvertes, des actions qui ouvrent la plateforme à plus de personnes et qui permettent d'inclure vraiment des membres de nos communautés au centre de la décision.
Je n'avais pas prévu de poser la question, mais je la pose. C'est GAVA, qui est l'organisme qui représente les personnes queer juives, demandent d'être dans le défilé. Ça va? Est-ce qu'ils seront là?
Là, je te dirais que c'est plus large que ça, c'est plus complexe.
Okay.
L'an passé, par exemple, quelque chose qui est beaucoup ressorti a été la maladresse, je te dirais, de fierté, justement, dans l'exclusion de certains groupes, qui a pu être perçu comme un comportement antisémite. C'était quand même une accusation qui était grave, parce que nous, en tant qu'organisme de fierté, on a la responsabilité d'être inclusif à 300%.
Oui.
Donc, c'est sûr que cette année, nous, on n'est pas dans la réaction, on va être vraiment proactif et proactive. On a engagé une démarche de dialogue avec les institutions religieuse, donc à tous les niveaux et avec beaucoup de groupes religieux. On a engagé une démarche de concertation qui vise justement à créer des espaces sécuritaires pour les personnes qui sont à l'intersection de la foi et de la queerness. C'est une intersection qui est réelle, qu'on reconnaît et qu'on veut inclure de la meilleure des façons. On est en dialogue avec les institutions religieuses. Ce dialogue va être ouvert justement à des organismes communautaires représentant des populations religieuses. Puis GAVA en fera certainement partie, mais le dialogue est en cours.
Bon, ça ne sera pas facile à gérer, ça n'a jamais été cette situation-là. J'aimerais quand même amener la crise de l'an dernier, amener à la fondation ou la création d'une autre fierté qui s'appelle Fierté Indomptable, qui vient d'annoncer une deuxième édition, une édition augmentée. Où en est le dialogue avec les organismes comme celui-là qui prennent une approche plus militante ou alternative?
Mais je pense déjà, peut-être qu'on nous a souvent vus comme la fierté Montréal, mais je pense qu'à Montréal, il y a plusieurs fiertés, avec un S aussi à fierté, puis c'est important de le nommer comme dans beaucoup de villes dans le monde. Et même, je te dirais, dans l'histoire, les communautés n'ont jamais été un bloc monolithique, on a toujours été comme une diversité de points de vue qui s'expriment, puis à tous les niveaux, tu vas avoir plusieurs fiertés, puis je voulais quand même le nommer, on nous met souvent en concurrence, puis moi, je pense que on a beaucoup de choses à apprendre les uns les unes des autres dans le dialogue. Puis tu vas peut-être être content d'apprendre, mais en effet, il y a un dialogue qui est très ouvert. Un dialogue qui est ouvert avec la Wild Pride, un dialogue qui est ouvert avec aussi d'autres groupes, des groupes qui nous avaient quittés, etc. Ce dialogue, quand je parlais d'écoute et de reconnaissance, il a été amorcé déjà il y a quelques mois. Ce dialogue, il va bien. Je te dirais qu'on a découvert les humains derrière les organisations. Puis ça, c'était assez intéressant. Parce que finalement, dans les médias, on a beaucoup posé nos organisations, mais quand on découvre les humains, on se rend compte qu'on a tous le même intérêt, qui est la volonté profonde de porter les communautés d'OSLGBTQIA+. C'est sûr qu'on est d'accord d'être en désaccord sur certaines choses, mais par contre, comme je disais, il y a une diversité de points de vue, mais dans tous les cas, le but est le même. Comment on porte les communautés d'OSLGBTQIA+, ailleurs, puis ça, on a un but qui est très commun.
De toute façon, dans d'autres villes, hein, je pense en Allemagne, il y a des villes qui ont 7-8 différentes fiertés pendant l'année.
Exact.
Puis à Montréal, il y a Fierté Trans qui vient de se terminer. Donc, il y a plusieurs fiertés.
Exact. Puis il y en a toujours eu. Hein. Tu sais, je pense à la Perversité, je pense à la Rad Pride, etc. Il y a une diversité d'opinions qui s'exprime aussi à travers une diversité d'organisations. Puis je pense que notre devoir, c'est de se respecter, puis justement de s'écouter, puis de voir comment on peut enrichir aussi ce qu'on offre aux communautés. En soi, c'est plusieurs plateformes qui permettent à plusieurs communautés de s'exprimer, puis je pense que c'est essentiel qu'on soit tous présents cette année ou encore.
Et d'apprendre à cohabiter, quoi.
Exact. Ben, d'apprendre à coexister ensemble.
À coexister, oui.
Comme je te disais, d'accord, d'être en désaccord parfois, mais d'avancer ensemble.
On va parler de la 20e édition 2026. C'est quoi les principaux défis logistiques cette année, notamment on retourne dans le village?
Oui, exact. Ben, c'est vrai que c'est notre 20e anniversaire, donc année pleine de défis et en plus une année anniversaire. Cette année, c'était important justement dans ce moment de rapprochement des communautés, d'être représent à nouveau dans le village avec 10 jours de programmation. On est toujours au Parc Olympique, mais pour 3 jours cette année, le vendredi, samedi, dimanche. Mais on voulait vraiment recentrer le tout sur le village. Les défis que ça implique, c'est pas notre première édition. Je te dirais que c'est sûr que ça implique des défis plus logistiques et de sécurité. Il y a toujours quelque chose quand même d'important, surtout dans le contexte actuel avec une montée de la haine. On a des enjeux de sécurité. Donc nous, on travaille fort avec la ville, mais aussi avec des sociétés pour assurer la sécurité de nos communautés. On retrouvera le Mixbus cette année. Cette année, on n'a pas tant de défis logistiques, je te dirais. C'était plutôt une question, justement, de finances. Comment on arrime ça au niveau des finances? Parce que les coûts de production et de programmation augmentent.
Et le financement ne suit pas.
Le financement ne suit pas toujours. Soit il stagne, soit il diminue en fonction des organisations. Par contre, les coûts augmentent. Donc, c'est plus ça. Le plus gros défi cette année, ça a été de comment faire grand avec moins. C'était quelque chose d'assez intense, je te dirais.
Je pense que je vais tout de suite aller au-delà des festivités de cet été. C'est quoi la vision à long terme pour que Fierté Montréal demeure un mouvement responsable et sécuritaire?
Mais je te dirais qu'on n'est pas tant sur... quand je te parlais d'actions concrètes, on ne le pense pas dans le court terme. Tout ce qu'on fait, on le pense dans le long terme. Tous les comités aviseurs, etc. vont perdurer. Ce n'est pas juste cette année parce qu'on essaye de se rattraper, etc. C'est quelque chose qu'on veut inscrire dans quelque chose de long terme. À long terme, après, on a encore des améliorations, notamment le cadre d'analyse des partenaires, cadre d'analyse pour la participation au défilé journée communautaire. Tous ces cadres d'analyse, ça prend plus de temps. Des mécanismes, etc. à mettre en place en concertation avec le CA, mais aussi le milieu communautaire. C'est ça qu'on veut mettre en place à long terme, grâce notamment au comité qu'on a mis en place.
On est rapidement, l'édition, donc la programmation va être annoncée en juin. Mm-hmm. Est-ce que j'ai droit à une primeur ou deux?
Mais je te dirais qu'on a le 20e anniversaire cette année, le samedi au Parc Olympique, ça sera le grand show du 20e. Okay. Le grand show du 20e, c'est le show anniversaire qui célébrera vraiment la multitude des talents queer de Montréal. Puis on a vraiment envie de mettre l'accent sur le show du 20e au Parc Olympique, qui a été notamment mis en scène par Mélodie et Geneviève de Pleurer dans le douche. Mmh. C'était une belle collaboration qui a abouti à un très très beau show. Moi, j'ai très hâte.
On a hâte de voir ça. Bon, et Gino, est-ce qu'on peut le dire? T'es également drag queen? On va te voir pendant la fierté?
Alors, je te dirais que ma drague est de plus en plus discrète parce qu'au fur et à mesure que mon temps se limite, le sien également. Par contre, c'est sûr que je serai là pour soutenir tous mes amis artistes avec qui je connecte énormément. C'est sûr qu'elle sera un peu plus discrète, mais on la retrouvera à un autre moment.
On peut souhaiter bonne fierté?
Ben oui, on peut souhaiter bonne fierté. Merci.
Merci beaucoup, Gino Montero, directeur général par intérim de Fierté Montréal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.